avec sa part divine. Et il accepte que finalement, nous, en tant qu'acteurs, notre rôle, c'est de faire des choix, parce que l'absolu ne peut pas faire de choix, il est la totalité, mais il ne voit pas de chemin. Et il a besoin du relatif pour ça. Et c'est au relatif de faire des choix et de les vivre, parce que pareil, notre part qui est dans l'absolu, elle peut pas, elle n'a pas de corps fini pour vivre les choses, et elle ne peut pas vivre une expérience finie. Donc à partir de là, nous, on fait des choix, on les vit, et on laisse l'absolu faire tout le reste. Et là, il y a une réconciliation qui se passe. Plus cette réconciliation avance, plus d'un coup, ta vie se met à couler. C'est-à-dire, au lieu de subir le monde, c'est comme si d'un coup, tout le monde est d'accord. Donc ça se fait. Et donc ta vie devient de plus en plus facile, en fait. Parce qu'il n'y a plus d'obstacles, vu que tout le monde est d'accord. Et vu que tu es entièrement créateur, mais pas forcément en conscience, c'est doucement, de plus en plus, tout va dans le bon... tout le monde va dans le même sens, si tu veux. Donc ça devient en fait de plus en plus fluide et de plus en plus simple. Donc c'est ça que tu vois, que tu avances. Tu vis
Alors,
plus.
il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu dis que le scénariste, quand on entend scénariste, je prends l'exemple du cinéma, un scénariste, c'est quelqu'un qui va écrire une histoire. Et tu nous dis que le scénariste ne connaît pas les chemins, que c'est à l'acteur de choisir le chemin.
Ouais.
Donc, ça sous-entend que le scénariste, lui, qu'est-ce qu'il a prévu au final? Parce que dans notre esprit, on pourrait penser que c'est le scénariste qui écrit les différents plans de la scène avec les différents chemins et que l'acteur n'est là que juste que pour interpréter. Or, tu nous dis que l'acteur
Choisi.
choisit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en fait le scénariste a tout prévu. Tous les scénarios possibles. Toutes les potentialités, tous les futurs, tous les possibles. Et que même s'il en manque un, il te le crée sur mesure. Mais que c'est à l'acteur de choisir le chemin. L'absolu, lui, il a la totalité. Donc il... Voilà. Mais il peut pas choisir de chemin. L'acteur, lui, choisit. Et en fait, tu es toujours... Et c'est ça qui est très compliqué à comprendre, hein, de notre point de vue à nous. C'est que à la fois, tout est écrit, mais tout change tout le temps. Donc c'est à la fois vrai de dire effectivement ton destin jusqu'à la fin des temps est déjà écrit, sauf qu'à chaque instance tout est détruit et recréé pour répondre au choix qui est fait. Donc en fait le libre arbitre est réel. Il n'est pas conscient mais il est réel. Et c'est l'acteur vraiment qui choisit ou qui fait des non-choix. Parce que pour l'instant on n'est pas encore complètement des humains. C'est là qu'on rencontre... On sort à peine de l'animalité et on a beaucoup de mal à accepter notre part animale. Et on n'est pas encore vraiment des humains. Donc on n'a pas complètement le libre arbitre en conscience. On vit des non-choix, pas des choix. C'est des choix inconscients. Donc plus on met les choix en lumière, plus les choses deviennent conscientes, plus en fait la vie se met à couler. Mais c'est pas sur tout d'un coup, il y a plein de choses d'un coup où avant c'était des murs infranchissables et puis d'un coup, bon. Sauf que à un moment, il y a vraiment eu un accord qui s'est fait. Et c'est tu peux pas dire que c'est toi qui veux. C'est ça qui est compliqué, hein. Qui c'est qui l'a voulu, je sais pas. Plein de niveaux en même temps sont d'accord et ça se fait. Tu vois, c'est plus le même point de vue de l'acteur révolté contre le scénario, contre l'histoire de sa vie qui dit mon Dieu, c'est une catastrophe, machin. C'est pas non plus une soumission, c'est autre chose. C'est un accord. Et c'est quelque chose, vraiment une réunification qui se fait. Bon, après, avec des mots. Mais c'est vraiment. Et un silence intérieur qui s'installe. Hein, t'as plus blabla dans la tête à un moment parce que. Il y a des blabla parce qu'il y a plein de morceaux. On est coupé en morceaux. Et on a plein de voix qui essaient de déterminer une voie où aller, justement. Et plus tu réintègres ces parts-là, moins il y a blabla. Et à un moment, il n'y a quasiment plus blabla. Puis à un moment, c'est silence. Et quand c'est silence, voilà. C'est autre chose qui se passe. C'est une autre manière de percevoir. Mais du coup, c'est comme si l'histoire finalement n'était pas si importante. Et par contre, le vécu devient, l'être devient important. Et cette notion d'être, plutôt que du paraître, elle est vraiment compliquée à intégrer si elle n'est pas vécue. Parce que c'est vraiment un état très particulier. Ça n'est pas juste des mots abstraits, c'est quelque chose quand tu le vis, tu le reconnais cet état. C'est comme si la vie était un ouragan et d'un coup tu es au centre de cet ouragan. Avant tu étais emporté et là d'un coup tu es au centre. Et donc c'est encore donc tu peux profiter de tout, en jouir pleinement et peu importe finalement l'événement. Tu peux te faire marcher sur la tête, te faire taper dessus dans la boue, ça change rien parce que tu es centré. Tu es au centre de cet ouragan et tu es dans autre chose. Tu vois? Et ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment un état complètement différent, où tout plus rien n'a à voir, où plus rien n'a d'importance, sauf la jouissance de l'être à ce moment. Et elle passe par n'importe quoi. Si t'es en périphérie, t'es emporté par ce que tu saisis. Et qu'est-ce que tu saisis? Ce qui passe, hein, tes peurs, tes trucs, ton mental, tu saisis tout, quoi. Mais du coup, t'en jouis pas vraiment, t'es emporté dans ce tourbillon, tu vois. Donc, c'est vraiment un état très précis. S'il n'est pas vécu, alors tu dis, c'est toujours le même problème. Tu vois ce que j'évoquais là avec tous ces. Quand toi tu peux vivre un état qui n'a rien à voir avec l'humain, et tu dis il va bien falloir qu'à un moment j'essaie de le filer aux autres, mais comment? Je suis obligé de passer par de l'humain pour expliquer un état non humain. Et en sachant que de toute façon, si tu as sur 10 personnes à qui tu expliques, s'il y en a un qui comprend, qui arrive à faire le lien, tu es content, quoi. Parce que tu dis, mais bah, je sais qu'il y en a plein, ils vont prendre au pied de la lettre et puis ils vont rester bloqués dans. Mais en même temps, tu dis, mais comment donner du non manifesté en manifesté? Tu vois, c'est extrêmement complexe parce que c'est des états très réels, très puissants, mais qui n'ont rien à voir avec l'humain. Tu vois, c'est pas simple tout
Oui,
ça.
tout à fait. Guillaume.
Ouais, ben pour parler de l'acteur, déjà la chance de pouvoir être acteur et d'avoir des bribes de conscience et de pouvoir cultiver cette conscience qui peut amener après un chemin, une ascèse, quelle qu'elle soit, avec l'ego qui va prendre et étouffer la plupart du temps l'acteur.
Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'au départ, c'est une souffrance. Tout le monde joue la scène avec conviction et toi, tu t'aperçois que le décor est en carton-pâte, qu'il y a le souffleur en bas qui te souffle le texte et qu'il y a le public qui applaudit. Et tu es le seul à le voir. Donc, c'est une vraie souffrance au départ. Et c'est très dur. Parce que, ouais, mais c'est vrai, hein, c'est toi, tu vois bien que c'est un film, que c'est une histoire, et personne ne le voit, mais en même temps, tu es dedans, tu peux pas t'en aller. Tu es bien obligé à un moment. Alors, moi, ce que j'ai toujours pensé au départ, je disais, mais soit j'en vois trop, soit j'en vois pas assez. C'est-à-dire, mais. C'est impossible de rester dans cet état-là, à bien voir que tout est en carton-pâte et puis que les autres le voient pas, et moi être bloqué là-dedans et puis dire mais tu vois ni dans un état ni dans un autre. Quand je te dis entre la mort et la vie et entre les deux c'est pas possible. À un moment t'es obligé, soit tu dis ben, je me rendors complètement dans la scène parce qu'au moins je jouerai la scène, que je serai aussi fou que les autres mais je serai bien ou hein. Fou c'est un peu le mot mais c'est peut-être pas le mot idéal mais c'est un peu cette idée hein, c'est dire mais ils sont tous dingues. Ils dorment, enfin ils sont fous quoi, ils voient pas que le décor est en carton-pâte et qu'on joue une scène de théâtre quoi. Et en même temps, tu dis, ben, je préférais cette folie finalement, c'est plus confortable que d'être dans cet état. Ou alors à un moment, je me bouge un grand coup, puis j'avance parce que je peux pas rester là où je suis, c'est trop confortable. Et donc il y a deux choix, c'est soit on se rendort complètement, soit on dit, il n'y a pas le choix, là, il va falloir trouver une solution. Et là on part à fond sur, ben, je sais pas ce qu'il y a après, mais il sera toujours mieux que là où je suis. Voilà. Et pas parce que c'est pas bien d'être un humain. C'est que d'être le cul entre deux chaises, c'est ingérable. Et donc, c'est ce qui arrive le plus souvent hein, aux gens. Et donc, en fait, il n'y a plus rien d'importance parce que tu es désespéré. Il n'y a pas d'autre mot. C'est désespérant comme état. Hein. Et donc, il n'y a plus rien d'importance à part trouver une solution à cet état. Et donc, voilà. Et comme tu es en plein. Ben, à un moment, si tu es dans ton chemin, ben, il se trouve que toutes les solutions arrivent et puis tu avances. Mais tu n'as pas de choix. C'est vraiment, il faut bien comprendre ça. Tant que tu n'es pas centré, tant que tu n'as pas trouvé ce centre, tant que tu es. Dans un état, ni un état ni l'autre, tu peux pas rester comme ça. Tu vois? C'est donc pas une chance. Voilà. C'est pas une chance, c'est même désespérant. C'est presque d'envier les autres de dire, ben, enfin, envier sans les envier, mais de dire, mais finalement, eux au moins ils peuvent jouer avec conviction, quoi. Moi je suis obligé, mais j'y vais mollasson, hein. Tu vois? Voilà.
Justement, dans ton livre, d'ailleurs, je rappelle, hein, Christophe Alain, Alain avec deux L, Vacuité, contemplation et jouissance de la matière, journal d'un éveil du troisième œil, c'est le tome 3, aux éditions Interkeltia ou Atlante, Atlante avec un S. Tu nous dis ceci, donc nous sommes l'univers entier qui rêve. C'est à la fois notre propre corps et l'univers peuplé de consciences multiples, étranges mais vraies. Ce que nous voyons dans la matière n'est qu'un point de vue particulier situé à l'intérieur de notre propre corps multidimensionnel. Et ces corps, spirituels, mentaux, émotionnels, matériels, etc., ne sont que des projections du centre, situé dans le cœur, le siège de la seule réalité, l'esprit divin. Ce ne sont que des reflets déformés de plus en plus denses. En un sens, ils n'ont pas d'existence. Et pourtant, ils n'existent qu'eux, et ils sont l'univers. Tout est illusion, ou tout est réel, c'est au choix, mais de toute façon, tout est pareil. Donc, et c'est là où je veux en venir, les archanges, les saints, les entités, etc., ne sont que les habitants de notre propre corps que nous faisons manifester pour discuter, comme les collègues de bureau dans la matière. Ils existent à la fois complètement et en même temps, ils sont une illusion comme nous. Eux-mêmes sont également l'univers entier qui perçoit d'un autre point de vue, grâce à la construction énergétique des corps subtils qui leur est propre. La notion de personne inclut simplement ce fait. Nous sommes un et avons l'illusion d'être séparés et de nous côtoyer. Et tu donnes l'image de l'estomac.
Et oui, parce que c'est comme ça que je l'ai compris le plus simplement. C'est-à-dire que on est tous l'univers entier. L'image de l'estomac, c'est comprendre pourquoi tout est, en fait, tout est parfait, tout a son rôle à jouer. Mais est-ce que quelque chose est à sa place ou non? C'est ça, en fait. C'est quand tu es confronté aux énergies, aux esprits. Là, c'était c'est-à-dire que tu croises vraiment des esprits. Hein. Tu les croises. À un moment, tu gères ou tu gères pas. Mais c'est là, c'est là. Et tu discutes avec et tu peux même échanger. Pas à un niveau humain, hein. Un niveau au-dessus de l'humain. C'est-à-dire que l'information, elle s'échange par de l'énergie et de manière instantanée. C'est le niveau de l'âme. T'es pas en temps linéaire, t'es en temps simultané. C'est des choses très différentes de l'humain, mais c'est pas encore. On peut aller plus loin que ça. Tu vois, c'est un niveau encore intermédiaire. Et c'est là, et tu discutes avec, et tu es toujours face à ton propre reflet, quoi qu'il arrive, et même face à des choses non humaines. C'est juste que tu te réfères à quelque chose qui n'est pas au même niveau que nous. Nous, on est dans du mental. Pour moi, on est dans un monde mental, ici, très mental. Tu discutes avec un truc qui vient d'un monde émotionnel, il n'aura pas la même forme. Tu discutes avec encore autre chose, bon ben voilà. Et je distingue tu vois, quelques petits trucs, mental, émotionnel, c'est juste pour se comprendre. Mais moi, dans ma perception, si je te devais te définir les choses, c'est infini. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas vraiment de. Et voilà. Si je te définis ça, si je te redéfinis autrement cette notion d'infini, de fini, de vacuité, de. Imagine 1 à 10, les nombres de 1 à 10. On est bien d'accord qu'ils n'existent pas en dehors du mental. D'accord? Ils n'ont aucune
Ok.
réalité réelle. Hein.
Ok.
C'est juste dans notre tête, on a dit, on fait 1 à 10. C'est une convention mentale humaine. 1 à 10, on dit donc. 1 à 10, il n'y a que 10 nombres. Si j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est fini, il n'y a plus rien. Je dis non, entre 1 et 2, il y a encore une infinité de nombres. Donc on va regarder cette infinité. Puis un moment, ah oui, mais après la virgule, tu peux mettre une infinité de nombres aussi. Et là, tu approches de la notion de vacuité. Quand tu es dans 1 à 10, tu es dans la matière. Quand tu vois qu'il y a une infinité de nombres entre 1 et 2, tu rentres dans l'énergie. Et quand tu t'aperçois que dans l'infini, on approche de l'infini, eh ben, tu t'approches de la vacuité. Et donc du réel. Et qu'est-ce qui existe? Ben, rien, 1 à 10, ça n'existe pas, on l'a inventé. T'as compris?
Tout à fait, ouais.
Et c'est la meilleure image que je peux te donner aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment ça. Et tu dis, ben oui, c'est là, mais c'est juste une construction. Et en même temps, dedans, il y a une construction encore plus puissante, puis encore une plus profonde. Mais qu'est-ce qui est réel finalement? Ben ça, c'est tout ça, c'est juste que de la construction au fond. D'accord? Et donc, c'est ces trois niveaux-là que tu vas rencontrer. Et donc, quoi qu'il arrive, tu es toujours l'univers entier qui se rencontre lui-même. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à percevoir des dimensions infinies. Quand tu perçois l'extérieur, tu perçois l'intérieur. Donc tu te retrouves, t'as le corps, puis t'as l'univers entier à l'intérieur, mais tu le perçois. Tu perçois les planètes, les trucs, tout ça c'est dedans. Et c'est toi. Et donc tout l'univers est vraiment à l'intérieur, est vécu, perçu. Tu vois, donc c'est pas juste une image, tu vois, c'est pas juste abstrait, c'est concret. Quand tu le perçois, c'est concret, vraiment, tout est là. Et donc en fait, quand tu es en autodestruction, c'est l'univers qui est en autodestruction finalement. Et quand tu repars en auto-guérison, ben. Et tout ça n'est qu'une construction, en fin de compte, hein, l'univers il se détruit jamais vraiment. C'est juste une construction par-dessus.
D'ailleurs, pour illustrer aussi ça, il t'est arrivé à un moment donné près de chez toi, enfin à l'époque, tu as souhaité dormir dans la nature par une nuit qui était très étoilée, et tu fais référence écho aux étoiles ou au soleil. Tu te rappelles de ça?
Ouais, alors j'ai toujours beaucoup de mal avec le ciel étoilé. Pourquoi? Parce que bah, moi j'ai accès à énormément d'informations. Si je regarde quelque chose, je me branche dessus, il me raconte plein de choses. Et les étoiles, ça me dérange qu'elles racontent. En plus, tu es surtype énergétique extraterrestre, moi je déteste. C'est des problèmes de temps en fait. Hein, si tu regardes en fait le passé en l'air. Mais en fin de compte, c'est dérangeant comme information pour l'humain. Donc c'est pour ça que des fois j'ai du mal à dire, mais finalement c'est quoi? La même planète déclinée sur d'autres espaces-temps finalement. Donc le décor est vraiment en carton-pâte finalement, hein, c'est juste du trompe-l'œil en haut. Ou pas du trompe-l'œil, c'est juste du décalage comme le temps et l'espace c'est pareil, tu croises des échos de toi-même finalement, quand tu vois la lumière d'une étoile, c'est peut-être la lumière de la. Bon, je peux pas gérer ça avec ma tête, tu vois, ça fait des nœuds, donc j'essaie d'éviter. Mais voilà, il y a des histoires qu'à un moment donné, le temps et l'espace, c'est vraiment la même chose. Et tellement qu'en fait, c'est comme si le temps n'existe pas vraiment. C'est plutôt qu'il y a des dimensions multiples qui se côtoient et tout est créé simultanément. Et nous, on fait un lien là-dedans.
Donc, alors, ce que l'on sait d'un point de vue scientifique, par exemple, c'est que plus on regarde loin dans l'univers, plus on pense voir le passé de l'univers, tel qu'on pense qu'il a été créé avec le début du Big Bang, et que les étoiles que nous voyons dans le ciel ne sont pas à l'emplacement où elles sont, puisqu'on pense que la lumière met tant de milliards d'années à nous parvenir. Donc il faudrait décaler d'autant plus l'étoile en question par rapport au temps du moment présent où on les observe.
Ah ouais, non, mais c'est donc, ingérable ouais, c'est avec déjà, les
ouais. Donc ce que tu nous dis quelque part, de ce que je perçois, c'est qu'en regardant les étoiles, des constellations, des galaxies, on perçoit, parce qu'on nous dit en même temps, nous sommes des poussières d'étoiles. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Et quand tu nous dis que nous sommes l'univers entier qui rêvons, est-ce que tu pourrais nous donner une autre image? Est-ce qu'il s'agirait pour toi de nous dire qu'une étoile, ou qu'on le regarde dans le ciel, serait peut-être l'image de notre soleil, mais à un autre temps?
Tu peux le voir comme ça, mais bon, je n'ai pas fouillé la question outre mesure de ce point de vue extérieur, parce que, comme je te dis, c'est des énergies que j'ai du mal. Hein, c'est pas forcément qu'une bénédiction hein, de percevoir plein de trucs. Des fois, tu te branches sur des choses où il y a des informations que tu n'as pas envie d'entendre. Ceci dit, je vais te donner une image un peu différente, comme d'hab. Comment dire? Le jour, tu vois pas le ciel. Enfin, tu vois le ciel bleu, tu vois pas les étoiles. C'est normal, c'est le jour, tu es dans le conscient. La nuit, tu es dans l'inconscient. Donc tu vois plus le conscient, tu vois plus autour de toi, par contre, tu vois l'inconscient. Donc quand tu regardes en l'air ton ciel étoilé, tu regardes tes ouvertures temporelles et ton psychisme. Donc tu regardes vraiment des ouvertures temporelles en haut. Et tu regardes ton propre, ta part psychotique, hein, ton psychisme en fait. Comment toi tu crées l'espace et le temps. Et ça n'est qu'un miroir de ton propre psychisme. Et c'est pour ça qu'il y a tous tes chemins de vie en haut. Et c'est pour ça qu'ils ont raison, hein, les astrologues. Ouais, c'est ton ciel à toi qu'il faut regarder, hein, c'est pas celui du voisin, ça c'est encore autre chose. Mais ton ciel, quand je veux dire par là, c'est dans ton monde à toi tel que tu le perçois. Donc il faut prendre ton télescope et toi regarder ce que tu vois en l'air. Moi, en tant que clairvoyant, le problème c'est qu'en l'air, tu vois plein de choses qui sont pas forcément dans la matière. Hein, des trucs qui tournent autour des étoiles, c'est pas sur les cartes, mais c'est normal, c'est pas dans la même dimension, donc c'est compliqué à gérer derrière. Mais c'est vraiment dans la psyché que tu regardes et dans ses ouvertures temporelles. Donc il faut être vraiment au clair avec les notions de temps, déjà pour soi. Savoir où on est, hein, le côté ici et maintenant, il faut que le temps était bien résolu derrière, parce que sinon, ça peut être le bordel des fois dans sa psyché. Donc en fait, si tu regardes en haut, voilà, t'es ramené à ça. Donc tu vois, c'est très compliqué, c'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ça te renvoie complètement ton fonctionnement multidimensionnel et en même temps, c'est palpable. En fait, tu vois, tordu tout ça, hein, mais en même temps, c'est tout parfaitement la même chose. Et c'est pour ça que l'astrologie, machin, tout le monde a raison. C'est juste, c'est des portes d'entrée différentes, finalement.
Avec nous, Christophe Alain, pour ce livre, « Vacuité, contemplation et jouissance de la matière, journal d'un éveil du troisième œil », aux éditions Interkeltia avec un K, ou les éditions Atlantes, qui les mêmes. Et je vous renvoie à la note de l'éditeur. N'hésitez pas à aller pour commander ce livre directement sur le site Interkeltia, puisque si vous les achetez via une librairie ou Amazon, eh bien, le circuit de distribution se prend 60% sur le prix du livre. Voilà, et donc l'éditeur étant un petit éditeur, Interkeltia, représenté par Christelle Seval, que nous apprécions particulièrement, n'hésitez pas à vous procurer le livre directement en allant sur le site internet, sachant que, il y a une petite information, les frais de port sont offerts gratuits à partir de 4 livres achetés. Voilà donc pour les auditeurs, ce dont nous allons parler ce soir, de tout ça et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi je vous invite à vous caler tranquillement dans votre canapé, votre fauteuil, votre lit, je ne sais, de prendre de quoi boire, manger, je ne sais, tenir, parce qu'on va aller jusqu'à 6h du matin, approximativement, si ce n'est pas plus. Donc, on se fait une petite respiration musicale, on se retrouve tout de suite.
about that hidden mystery.
Vous êtes toujours à l'écoute de la radio Ici Maintenant, 95.2 par Île-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, le magazine Énergie Positive, ce soir avec Christophe Alain, pour ce livre « Vacuité, contemplation et jouissance de la matière ». Nous accueille avec nous aussi ce soir Guillaume Darc, qui permet de m'accompagner dans ces nombreuses questions que nous avons à poser auprès de Christophe et de son livre notamment. Christophe, toujours dans cette idée de la source qui s'incarne dans le relatif, de l'absolu qui s'incarne dans le relatif, je te prends juste par rapport à ce paragraphe, retour aux sources et lâcher prise. Lorsque nous descendons dans la matière à partir de l'esprit divin, ceci s'opère sous de multiples formes, simultanément et dans différents espaces-temps. Cela permet à l'esprit de se livrer dans le même instant à différentes expériences de lui-même sur la base d'une simple intention. Il envoie une part de lui faire l'expérience de la joie, par exemple, et cela crée plusieurs âmes qui se divisent en plusieurs corps et vont faire cette expérience sous toutes ses formes, y compris dans la dualité. Ce qui signifie que pour expérimenter la joie, on va également expérimenter la tristesse. Depuis son niveau, l'esprit divin va utiliser des peurs et des attirances, pôles positifs et négatifs, pour jalonner le chemin de chacune de ses émanations. Alors, si tu peux développer.
Alors, c'est quand je travaillais à un moment donné sur la notion de karma, entre autres, que c'est sorti un petit peu cette histoire-là. C'est dans des perceptions sans forme. Donc, perception de la matière, perception de l'énergie, et à un moment, il y a des perceptions au-dessus de ce niveau-là que je pourrais un peu plus détailler, mais c'est un moment où tu perçois par aucun sens. Et c'est les plus puissantes, et les seules réelles, hein. Le reste, c'est des constructions. Notre nature, elle perçoit sans forme. Imagine, le divin veut faire toutes les expériences. Imagine une plaine infinie de potentialité. C'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Après, quelle forme, je ne peux pas te dire, mais parce qu'il n'y en avait pas, mais c'est vraiment perçu. Et c'est découpé en... Donc cette plaine où tous les événements possibles et imaginables sur toutes les dimensions, les espaces-temps et pas que les humains. Hein. Bien comprendre ça. Hein. Et donc c'est découpé en morceaux. Et chaque découpe, imagine un mandala. Tu sais, les trucs. C'est quoi ? C'est une vie relative. Un mandala, c'est vraiment une vie humaine, quoi. Donc un labyrinthe dans lequel la personne peut exprimer son expérience. On est à la fois le centre de notre expérience et la limite de l'expérience d'un autre. Donc tout cela sont interdépendants complètement. Ils sont émanés de la même source et totalement interdépendants. Ce qui veut dire que le seul moyen de passer de l'infini au fini, de nous limiter, c'est la peur. C'est pour ça qu'en fait, la première création, c'est le porteur de lumière, Lucifer, hein, qui crée l'obscurité, ben ça j'expliquerai peut-être après, mais en même temps, qui crée la notion de peur. Sans la notion de peur, on reste dans l'infini parce qu'on peut, enfin, on reste à l'unité, puis on peut pas être séparé, puis on peut pas mettre de limites surtout, parce que notre nature n'est pas limitée. Donc la peur, c'est ce qui nous permet de jalonner l'expérience de chacun. Quand tu rencontres un karma, tu es juste en train de toucher le bord de ton labyrinthe et de toucher du doigt l'expérience d'un autre ailleurs, dans un autre espace-temps. Et donc, nous, ça nous apparaît sous forme de peur, de karma. C'est de dire, mais je l'ai déjà vécu, je vais pas aller le revivre. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas forcément que tu l'as vécu. C'est un bout d'histoire qui est là, il n'est pas forcément à toi. C'est juste que tu viens toucher du doigt un autre labyrinthe, une autre histoire. Si tu veux le dépasser, c'est possible. Hein. Comme tout est interdépendant, c'est un moment, l'autre te cède l'expérience, tu l'en cèdes une autre et il se passe quelque chose comme ça plutôt. Donc tu peux dépasser ce karma. Mais en fait, ça n'est pas une punition. C'est tu rencontres une limite qui te dit non, attention, un autre est en train de faire cette expérience. T'as pas besoin de la vivre toi. C'est juste ça en fait que tu rencontres. Et c'est vraiment dans cette perception-là. Donc imagine cette plaine infinie, mais en multidimensionnel, hein, où tous les espaces-temps se côtoient et chacun est à la fois le centre de son expérience et la limite de celle des autres. T'imagines un labyrinthe humain où tous les autres en fait te bornent ton expérience. Tu vois ? Voilà.
D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une très belle histoire que tu as eu l'occasion de vivre pour nous expliquer cette notion de karma. On va aussi en parler longuement. Tu te rends dans un restaurant et dans ce restaurant, tu vois un petit garçon qui est avec un couple d'hommes et tu vois une vieille dame qui est en train de déjeuner avec une jeune fille, me semble-t-il.
Oui.
Ouais. Et le petit garçon, à un moment donné, décide d'aller voir la femme qui se trouve là. Je ne sais pas quel âge a le petit garçon, 8 ans peut-être, quelque chose comme ça.
Oui, exactement. Ouais. Je ne le dirais pas, mais...
Ouais. Ouais. Et donc tu suis, tu écoutes l'échange qu'il y a entre cette femme et ce petit garçon. Et je te poserai la question, est-ce qu'il y aurait un rapport justement là avec la notion de karma ? Et qu'est-ce que te renvoie cette discussion que tu captes ?
Alors là, le contexte exact, parce que j'en ai moins deux ou trois, des choses comme ça, mais qu'est-ce que ça renvoie ? Ben, y a toujours une interaction au niveau plus haut. Qui répond à d'autres histoires qui s'entremêlent, si tu veux. Il n'y a pas que l'histoire, la scène qui est jouée là. Il y a d'autres choses. Plus il y a ce qui fait écho chez toi, qui te renvoie en miroir sur ce que toi t'as vécu ou sur tes histoires à toi. Et ça répond souvent à la problématique que tu as. Voilà, ceci dit, bon...
La problématique, donc, n'a pas forcément à faire avec le karma.
Non, mais c'est vraiment ce côté interdépendant de tout. Tu vois, c'est accepter que... vraiment, on est tous interdépendants, hein, c'est pas juste une image. Et que dès que quelque chose bouge chez les uns, bah, ça fait écho. Et quand t'es au milieu d'une scène, il y a une vraie raison. Hein. Là, on est dans le réel, là où tu es ici et maintenant, dans une scène que tu vis. Et dans cette scène, forcément, il y a des choses qui résonnent avec toi. Ça peut pas être autrement. Voilà. Après, c'est pas forcément les mêmes choses qui sont vécues de chaque point de vue. Mais dans le subtil, il y a un vrai échange qui se passe.
Voilà. D'accord, donc pour peut-être l'expliquer différemment, ce que tu es en train de nous dire, c'est que je suis au milieu d'une scène, on va dire donc cette salle de restaurant, j'observe les gens autour de moi, je ne les connais ni d'Ève ni d'Adam, il se passe quelque chose entre différents interlocuteurs, là autour de moi, autour de certaines tables, là, en l'occurrence cette vieille dame avec ce petit garçon de 8 ans, et ce qu'ils s'échangent entre eux fait écho chez moi en effet miroir, vient titiller quelque chose, une problématique que j'ai chez moi, que je peux donc prendre conscience. Cependant, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, on n'a rien à voir, cette vieille dame, ce petit garçon, et toi en l'occurrence à ce moment-là, mais cependant, il y a quelque chose qui se passe chez toi à l'écoute de cette conversation qui se joue. Donc ça, il y a cette notion donc d'interdépendance. Et ça sous-entend quoi ? Que finalement, chaque élément d'une journée... Chaque scène que l'on peut voir avec des collègues, avec des inconnus, avec relations de couple, que sais-je, il y a comme ça des événements, des dialogues qui, pour moi, je suis juste spectateur, j'observe juste, mais cela crée en moi écho ou pas, mais il peut y avoir ça. Et que cela donc nous démontre ou nous montre qu'il y a cette interdépendance.
C'est pas ça qu'il démontre formellement, ça tu peux le percevoir comme je t'expliquais à d'autres niveaux, mais effectivement quoi qu'il arrive, si tu es dans la scène, c'est qu'il y a une bonne raison, et tu peux pas te distinguer de la scène, et ce qui s'y passe fait complètement écho avec toi. C'est vraiment dans l'humain, Effectivement, on est conçu pour être séparé du reste, c'est fait pour ça. Donc pour croire qu'on n'est que ce personnage et ne même pas s'identifier à la scène. Mais il y a des niveaux plus hauts qui, eux, ne raisonnent pas du tout de la même manière et qui perçoivent tout ce qui s'y passe. Donc ce qui veut dire que rien n'est anodin, aucun événement, au point où ça peut devenir dérangeant d'en prendre conscience tout le temps, c'est ingérable. L'esprit humain ne peut pas gérer ça. Mais rien il y a un chien qui pète dans la rue, c'est complètement interdépendant, ça a un sens. Et à un moment, il faut accepter l'humain, hein, tu peux pas décrypter tout parce que tu pètes un plomb. Et puis, juste accepter le ressenti, de vivre la résonance et l'évolution qu'elle implique chez toi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de lutter. Ta vie elle-même est une évolution. C'est la vie elle-même, l'évolution. Quoi qu'il arrive, rien n'est anodin.
C'est très, très chaud de se dire ça, parce que on pourrait justement tenter de savoir le pourquoi. On aurait peut-être besoin, en tant qu'humain animal, justement, et vu qu'on est en Occident beaucoup dans la sphère mentale, de se dire, ok, quel est le sens de cet événement, de ce chien qui pète, de cette femme qui parle avec ce gamin? Parce que forcément, il y a quelque chose qui se passe en moi et qui a un sens. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'importe le sens, c'est juste de faire attention à ce qui se passe en moi d'un point de vue du ressenti.
Juste être présent. Bah, on en revient toujours à la même chose, hein, être présent et lâcher prise. Mais dit comme ça, personne n'y arrive. Et bien évidemment, au départ, tu n'arrives pas. Et c'est juste que de plus en plus, tu perçois ça, ces résonances. Ceci dit, comme je te dis, à un moment, tu t'aperçois qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre et pas mettre en lumière, parce que l'esprit humain n'est pas capable de les gérer. Et que tu es incapable, même si dans le ressenti, c'est gérable. C'est-à-dire que tu perçois ce niveau plus haut qui est en train de bouger. Enfin, tu as eu une démonstration à table il n'y a pas longtemps. Mais en même temps, tu es capable de jouer ta scène d'humain et c'est deux choses complètement différentes, d'accord? Tu traduis, si tu as envie, certaines choses, mais tu traduis pas tout. En un instant, ça change tellement de choses que c'est ingérable. Mais tu perçois bien cette interdépendance de la scène, tu vois, du tout.
Ça appelle une ouverture qui peut éviter de passer par l'intellect, sinon c'est épuisant ou effrayant ou décourageant même. Est-ce qu'il y a un autre positionnement à trouver pour justement s'ouvrir à toutes ces informations qui vont nous faire avancer?
Alors c'est le problème justement, c'est que ça ne passe pas du tout par le mental. Ça passe par un niveau qui est bien au-dessus de ça, qui n'est pas encore le niveau le plus haut, qui est juste un échange d'énergie, encore que dans mon cas, je te donne la scène du resto, on est au resto ensemble, je suis dans la matière, je suis en train de manger, comme tout le monde. Un niveau plus haut, l'énergie est en train de bouger dans tous les sens, mais... c'est un niveau plus puissant qui ne me nécessite aucune concentration mentale, sinon
tu manges plus.
Je peux pas. Oui, je peux pas gérer la conversation et tout le reste. Donc c'est un autre niveau qui a lieu en même temps. Et il y a un niveau encore plus puissant qui passe par le vide de la scène, mais ça c'est un niveau, une notion de vacuité. Et dans chaque instant de silence, il y a toutes les informations. Mais pas formulées dans l'humain, dans quelque chose de bien au-delà de l'humain, que l'humain peut même pas traduire en humain, c'est pas possible. Donc quand ces trois niveaux sont là, et que tu peux les vivre, et qui sont bien trois niveaux, bien séparés, qui n'ont rien, les deux, quand je te dis l'énergie, c'est vraiment, l'énergie circule dans tous les sens, et chaque fois qu'elle passe par toi, il y a une demi-tonne d'informations, qui sont intégrées comme si tu les téléchargeais, c'est instantané, mais ça passe pas par du mental. Et au-dessus, il y a ce silence qui en un instant contient une infinité d'histoires, tu vois, et en même temps, tu es dans la matière en train de jouer ta scène. Et quand ces niveaux sont parfaitement équilibrés, comme c'est silence intérieur, tu n'es pas épuisé mentalement. Si tu veux formuler quelque chose, ce que je fais, eh ben, il n'y a qu'une chose qui jaillit, une seule et unique. J'ai pas blabla dans la tête, justement, c'est silence. Donc, branche sur juste une chose, paf, comment je peux traduire ça, en sachant que c'est encore plus compliqué que ça. Hein. Donc j'utilise ces niveaux plus hauts, je suis présent, et le secret, c'est que je suis là, je suis pas barré ailleurs, hein. Je suis pas en train de penser à autre chose, je suis présent. Je suis face à la personne, et je suis dans la scène, et dans cette scène-là, je pose une attention. Et cette attention crée la connexion. Et cette connexion n'est pas mentale. C'est pas incompréhensible par le mental. C'est quelque chose qui a lieu dans l'énergie et qui est instantané. Et donc je pose une attention pour avoir une information claire, nette et précise. Et elle se traduit parce qu'il y a 5, 6, 7 qui fonctionnent ensemble et qui sont synchronisés.
5, 6, 7, tu veux dire les chakras?
Ouais, parce que 5, c'est matière. 6, t'es sur énergie multidimensionnelle. 7, t'es sur vacuité. Et quand 7, 6, 5 sont ouverts et en même temps synchronisés, t'as besoin d'une information à jaillir instantanément, à terminer. T'as pas besoin de faire compliqué. T'as besoin du mot juste, il jaillit. Quand le mot juste est donné, tout ça interagit.